Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les goûts, les principaux goûts?
Le goût du monde.
Chocolat.
Clémence de Navi.
C'est quoi comme goût le chocolat?
Bonjour, bienvenue sur RFI, bienvenue dans Le Goût du Monde. Le goût, c'est fou. Une émission chaque semaine à tourner autour de lui, à en parler sans l'interroger. Lui, le goût, mais quel est-il? Quels sont les mots pour dire les goûts? De quoi parle-t-on? Cerise sur le gâteau, d'ici la fin de l'émission, peut-être aura-t-on une idée du goût du monde, qui sait? Pour cette aventure, car c'en est une, je suis bien accompagnée. Bonjour Viva.
Bonjour Clémence.
Viva Lenoir, vous dirigez le pôle arôme des éditions Jean Lenoir, créé par votre père. Vous avez appris à goûter et vous savez juger lors de concours professionnels.
Alors j'essaye de le faire le moins possible d'un point de vue hédoniste, mais en tout cas le plus possible en essayant d'être objective, même si en question de goût c'est quasiment impossible.
Quasiment impossible. Bonjour Antoine Violette.
Bonjour Clémence.
Ravi de vous retrouver à notre table.
Merci, ravi de revenir.
Vous êtes éditeur, directeur général des éditions BPI qui publie l'un des livres incontournables pour apprendre à cuisiner, la série des livres de référence, la cuisine, la pâtisserie, la cuisine végétale de référence. Alors pour commencer tout simplement cette émission, une question simple. Qu'est-ce que le goût? Comment est-ce qu'on pourrait définir le goût?
Alors moi j'aimerais bien vous proposer un tout petit pas de côté par rapport à cette question, et vous posez à mon tour une question. Est-ce que vous connaissez la différence entre une odeur et un arôme?
Entre une odeur et un arôme. J'ai l'impression que dans l'arôme, il y a comme une notion pour le coup de goût, alors, gustatif, alors que l'odeur, ça va être pour mon nez.
Eh bien, vous êtes très très proche de la réalité. Effectivement, l'odeur, c'est ce qui, en fait, dans la définition concrète, est une molécule volatile qui évoque une perception olfactive. Donc c'est quelque chose qui va passer directement par les voies nasales pour impacter l'épithélium olfactif.
L'épithélium olfactif.
Exactement, qui transmettra ensuite le message sous forme de signal nerveux, d'influx nerveux, au cortex piriforme et qui lui est lié au bulbe olfactif. L'arôme, c'est ce qui va passer par la bouche et qui va ensuite impacter ce même épithélium olfactif. On parle alors en fait d'olfaction rétro-nasale, parce que ça passe par l'arrière de la bouche, mais ça vient toucher exactement la même membrane. Et pour répondre à votre question, en fait, l'odeur, l'arôme, ce sont effectivement des molécules qui vont passer par cet épithélium olfactif par des biais séparés. La saveur, ben, on le connaît, c'est ce qui va être l'acide sucré, salé, amer et l'umami.
Ce dont nous parlaient les enfants dans le générique concocté par Guillaume Munier.
Exactement. Et vous allez avoir aussi les sensations trigéminales. Est-ce que c'est piquant? Est-ce que c'est aqueux? Est-ce que c'est huileux? Est-ce que c'est astringent? Et enfin, la flaveur qui compose un peu le goût, justement. C'est l'ensemble de toutes ces caractéristiques.
Tous les sens sont-ils mis au travail et dans les mêmes proportions?
Je dirais que l'odorat, c'est quand même 80% du plaisir de la dégustation. Le goût tel qu'on peut l'entendre dans un sens vraiment général va être énormément influencé par l'odorat.
Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est pas l'assiette qui me donne le goût, mais c'est mon cerveau qui me dit ce que je goûte.
Alors effectivement, c'est ça qui est assez fantastique. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a tous des goûts, ou en tout cas des appétences singulières et particulières, les uns par rapport aux autres. C'est qu'il n'existe pas une réalité du goût ou de l'odeur. C'est pour ça que dans la définition, le fait de pouvoir dire une molécule volatile qui évoque une perception olfactive, c'est que cette molécule, quelle qu'elle soit, elle n'a pas de réalité, si ce n'est votre capacité à la sentir, à lui donner corps, qui va lui en donner une.
À l'apprécier.
Exactement. Mmh. Ou pas.
Mmh. Antoine Violette, vous avez voyagé beaucoup tout au long de votre carrière professionnelle, vous voyagez encore. Les livres que vous faites sont des livres pour apprendre la cuisine, donc vous allez dans des instituts notamment. Vous m'avez raconté une histoire de fruits rouges et de chocolat. Est-ce que vous pourriez la partager avec nous?
Est-ce que c'était par hasard une histoire de fruits rouges, de chocolat et de Japon?
Ah, absolument.
Donc nous voilà au Japon, nous voilà dans le cadre d'une dégustation professionnelle et autour d'un chocolat qui est connu pour avoir des notes décrites comme autour des fruits rouges. Et pour avoir fait un petit peu d'exercice de dégustation avec ce chocolat, les notes sont souvent décrites autour de la framboise, en tout cas pour des palais occidentaux et des palais français en particulier. La personne qui dirige la dégustation, à un moment donné, invite nos interlocuteurs japonais à nommer les goûts auxquels ils pensent. Et la discussion a du mal à s'engager, et donc spontanément, elle leur propose « Reconnaîtriez-vous par hasard la framboise ?» Non. Et là, on voit que la framboise n'évoque rien. Donc elle reprécise, elle repropose, on élargit un petit peu le spectre, et les fruits rouges, ah oui, là on voit, ne serait-ce que par les yeux, on voit qu'il y a des mots, on imagine qu'il y a des mots qui sont en train d'arriver dans l'imaginaire de nos interlocuteurs, et finalement, nous avons convenu, du moins, les mots qui ont été offerts par nos interlocuteurs japonais étaient « fraises ». Vous allez me dire, fraises et framboises, c'est pas la même chose, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a trouvé des mots communs dans le territoire des fruits rouges. Puisqu'en fait, l'exercice de cette dégustation était de parler d'alliance de goût entre ce chocolat et d'autres ingrédients qui allaient le rejoindre, qui étaient dans la sphère des fruits rouges. Donc finalement, nous on est arrivé avec framboise. Framboise pourrait n'évoquer rien. Ils sont arrivés avec fraises et on a parlé de fruits rouges autour de framboise et fraises. Tout cela pour dire que le goût, c'est extrêmement subjectif. Ce sont des émotions et on convoque des souvenirs. Si on déguste pour la première fois, on va découvrir, mais tout de suite, ça va générer dans notre imaginaire des souvenirs d'autres goûts et ça va rebondir en étincelles et on va convoquer des souvenirs. Ce qui est sympa et agréable, c'est de parler de goût. Si j'arrive en disant framboise et vous arrivez en disant fraise, le principal, c'est qu'au final, on déguste quelque chose ensemble.
Alors, vous dites dégustation, c'est intéressant. Si c'est tout un processus de déguster. Et pour le coup, on va s'appuyer sur des mots, une norme, une grille de mots qui nous permettent justement de nous donner des sens de discussion et des chemins. Est-ce que vous pourriez, par exemple, Viva, nous parler de la dégustation d'un café? Est-ce qu'il y a des mots qu'on va utiliser?
Alors, tout à
comment
fait.
Ça se passe?
Je vous ai ramené d'ailleurs, elle est facilement trouvable sur Internet, la grille de notation actuelle d'un organisme qui s'appelle la SCA, la Specialty Coffee Association, et qui a créé une forme qu'on appelle plutôt un formulaire qui s'appelle le formulaire de cupping. Le cupping en soi, c'est une manière de goûter le café qui est une norme internationale, et qui va permettre en fait à tout un chacun, quel que soit le pays producteur, quel que soit d'ailleurs les moyens qu'on va avoir sur place, d'avoir un barème de notation identique pour le plus grand nombre. En termes de goût, on va noter d'un côté le café quand il vient d'être moulu, parce que c'est là aussi où il exhale vraiment l'idée qu'on se fait du café, c'est généralement cette odeur-là. Ensuite, il y a tout un système, un protocole pour arriver à faire une séance de cupping. Et il y a une petite étape qui s'appelle le cassage de la croûte. Et qui va révéler aussi énormément d'arômes. Donc on va noter un peu cette particularité, les fragrances et arômes à ce moment-là. Ensuite, on va noter toutes les différentes saveurs, l'arrière-goût. Et enfin, on va noter l'acidité, le corps et la sucrosité, qui sont des caractéristiques essentielles d'un bon café, un café de spécialité en tout cas.
Alors ce qui est intéressant, c'est que peut-être que si vous tendez l'oreille, vous qui nous écoutez, vous entendez justement quelqu'un qui est en train de cuper, justement. Nous étions chez la torréfactrice Anne Caron. Et ce petit cupage nous permet plusieurs choses. Vous avez parlé de casser la croûte. Juste racontez-nous comment ça se passe. Parce que nous jamais on ne vit ce genre d'événement. On ne se retrouve jamais dans une situation où on doit goûter du café. Comment ça se passe? À quelle température l'eau? À quelle température tout ça?
Alors, comme je vous le disais, comme l'idée est d'avoir une norme de dégustation la plus neutre possible, ou en tout cas identique possible, effectivement, il y a des paramètres qui ne bougent pas. Il faut que l'eau soit à 93 degrés. Ensuite, il y a des tasses spéciales qui sont normées et qui permettent de contenir 200 ml de liquide.
Les fameuses cups.
Exactement. Là, vous mettez 8 g de café pour 200 ml d'eau. Vous attendez 4 minutes, puis au bout de ces 4 minutes, vous allez pouvoir casser la croûte, car le café moulu aura surnagé de l'eau et aura formé une petite pellicule, clairement une croûte. Et vous avez une petite cuillère spécifique qui ressemble à une mini-louche, qui est absolument ravissante, et qui vous permet, par 3 mouvements, de casser cette croûte. Après, il faut nettoyer la tasse, c'est un geste très délicat. On en met généralement partout, sinon c'est pas drôle. Et après, vous attendez encore 4 minutes. Vous goûtez le café et vous réattendez encore 4 minutes pour pouvoir le goûter à des températures différentes.
Et donc apprécier ce café de manière différente en fonction de la température de l'eau.
Exactement.
Le meilleur café est celui qu'on aime.
Exactement.
Et ça va encore se démontrer au gré des continents, au gré des façons de boire le café. On va avoir des notes spéciales, des cafés qu'on va peut-être juger plus acides ici, alors qu'ils sont délicieux par cette acidité ailleurs dans le monde. C'est vraiment des choses qu'on peut remarquer.
Oui, tout à fait. En Inde, il y a des cafés qu'on dit riotés, qui vont avoir un côté fermentaire assez prononcé, un peu des notes phénoliques qui peuvent être...
Phénoliques.
Ouais. Alors, toutes les notes de phénol, c'est ce qui va évoquer le goudron, le tabac, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Le fumé, voilà.
Le fumé.
C'est des notes phénoliques, effectivement.
D'accord.
Et donc, certains cafés vont avoir ces notes-là, et puis d'autres vont avoir même des goûts assez surprenants, comme un goût très prononcé de jasmin. Parce que c'est la corollaire de la fleur de caféier. Et donc, on le retrouve notamment sur les geishas du Panama. Now which kind life way I never see. I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commerce. Comma. Original no be parody. It no fit clear for your memory. Whether now winter or summer.
Comas de la Nigériane Eira Star, à titre choisi et mitonné par l'équipe de la playlist de RFI. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde, Le Goût sous toutes les coutures aujourd'hui avec Viva Lenoir, la directrice du pôle Arôme des éditions Jean Lenoir, une femme dont le vin est le métier, le café sa famille, le whisky sa passion. C'est vous qui me l'avez dit.
C'est vrai.
Antoine Violette, co-directeur des éditions BPI, éditeur des incontournables ouvrages des cuisines de référence pour les amateurs et professionnels de cuisine. Donc on parlait du goût et des mots du goût, des mots pour dire le goût. Grâce à ces moyens normés de qualifier les goûts, ça nous aide. Mais quand on n'a pas ces moyens pour dire les goûts, comment fait-on ? Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent Aron, vous qui êtes sémiologue du goût, comment est-ce qu'on fait pour dire le goût?
Alors c'est compliqué en fait, parce qu'il y a dans le goût, on va voir qu'est-ce qu'on met derrière le mot goût, quelque chose, une dimension indicible en fait, littéralement, concrètement, physiquement. Et il s'agit des goûts et des odeurs qui sont difficiles à dire pour des raisons, non pas pour des raisons poétiques en fait, mais pour des raisons physiologiques. C'est les sens qu'on a présents en bouche quand on mange quelque chose, le goût. La gustation, ce qui est sur la langue, oui. L'odorat, on le sait moins, mais c'est très important. Et ces deux sens, ils ont des particularités parce que c'est les sens chimiques. C'est les petites molécules, les odeurs, les saveurs, qui viennent interférer avec notre système à nous, où il y a des récepteurs, qui sont des molécules aussi. Les particularités, elle est que on peut voir à peu près les mêmes choses, entendre les mêmes choses, mais on ne goûte pas et on ne sent pas, au niveau de l'odorat, les choses de la même façon. Les gens connaissent bien les différences de goût au sens culturel. Ce qu'on méconnaît, c'est les différences qui sont liées à notre génétique.
En fait, physiologiquement, je ne sens pas la même chose que l'autre et je ne goûte pas la même chose que l'autre.
Exactement. C'est-à-dire que quand vous voyez du jaune, moi, je ne vois pas du rouge. Quand on voit un carré, personne ne verra un rond, hein, ça c'est sûr. Tout le monde verra exactement le même carré. Ce qui se passe dans le goût et dans l'odorat, c'est que quand vous goûtez même du sucre, par exemple, vous allez le sentir quand moi, je ne vais pas le sentir. Il y a des odeurs que certains vont sentir, comme l'androstenone. Il y a des gens qui le sentent plutôt urine de porc, alors que d'autres le sentent une note miellée. Donc comment on nomme des choses auxquelles on est sensible, mais qu'on ne sent pas de la même façon. Donc c'est ça le côté indicible, c'est-à-dire je ne peux pas dire quelque chose pour lequel je ne peux pas trouver un mot qui va me permettre d'être d'accord avec l'autre, puisque lui, il aurait tendance à avoir une autre référence. Donc il ne ressent pas la même chose, donc il va référer à autre chose. Donc quel est l'accord ? Et c'est dur d'entendre ça, en fait, parce que Camus disait « il faut pas mal nommer les choses, parce que c'est ajouter du malheur au monde ». Mais peut-être que ne pas les nommer, c'est un peu triste aussi. Donc on peut quand même essayer de trouver des façons de communiquer. Pas de dire au sens lexical, au sens de trouver le mot juste, ça c'est peine perdue en fait. Mais on peut trouver une façon d'avoir des mots qui se rapprochent et qui font qu'on est heureux ensemble. Ça dépend de l'objectif qu'on se donne en fait. On peut avoir l'objectif d'essayer de travailler la précision, la vérité. C'est ce que les gens font, les techniciens d'analyse sensorielle, essayer de trouver des consensus. Ils entraînent les gens à dire les mots. Ils sont pas forcément exactement les mêmes au départ, mais on se met d'accord, on force le consensus. Ou on peut garder ce qu'on ressent et essayer de discuter avec l'autre, pas forcément avec les mêmes mots. Et en fait, ce que ça dit, ça, c'est que notre physiologie du goût, c'est un appel à la tolérance et à l'humilité. Et ça nous permet de faire de cette singularité une rencontre avec les autres.
Le sémiologue du goût, Laurent Aron, un grand saut, aller à la rencontre de l'autre grâce au goût. Antoine Violette.
Oui, j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années avec Laurent autour justement de la dégustation. Et nous avons fait un certain nombre d'exercices. Et un des exercices que Laurent aime bien, c'est proposer aux gens avec qui il travaille de noter les mots auxquels il pense, donc les goûts auxquels il pense sur des petits papiers. Et ensuite, on colle ces petits papiers, on essaye de faire des regroupements. Et finalement, on se rend compte qu'il va se créer sur le mur sur lequel on va coller ces petits papiers des familles de mots. Je pense à une séance en particulier avec Laurent Aron. Tout l'exercice qui était souhaité, c'était de casser les peurs de « moi je sais, toi tu ne sais pas » ou « et l'inverse ». Et tout sweet, trop sucré, ce qui a été évoqué par Laurent dans le passage qu'on vient d'entendre, c'est très intéressant parce que puisqu'on utilise des mots, on va convoquer la langue. Et finalement, on va utiliser un vocabulaire et une langue de plus en plus, une langue est riche, plus elle est intime avec un concept. C'est l'histoire des possiblement 50 mots dans la langue inuite pour décrire la blancheur de la neige, que nous, par exemple, dans la langue française, on ne va pas avoir. Et nous avons vécu avec Laurent, en l'occurrence, des exercices de dégustation où des personnes d'origine asiatique nous disaient « c'est trop sucré, too sweet ». Et nous travaillons avec des pâtissiers qui ont essayé de désucrer, désucrer, désucrer. Et finalement, ce n'était pas une question de sucre, c'était les goûts, il y avait trop d'explosions de goûts dans un univers de vocabulaire sucré, et donc les personnes n'avaient pas dans leur langue maternelle les mots pour le décrire, et finalement, ça a donné too sweet, trop sucré, trop complexe dans le monde du sucré.
Vous êtes arrivé, Viva, avec un coffret dans lequel il y a 36 arômes. 36 arômes, ce sont 36 arômes du café, tels qu'ils ont été, en tout cas pour l'instant, répertoriés. Ça s'éduque, le goût. C'est tout un apprentissage, en fait.
Quand mon père a créé les éditions, c'était dans les années 80, il a commencé par le faire avec Le Nez du Vin, qui est l'ouvrage phare de notre maison. Pour Le Nez du Café, cet outil-là, il a été créé à la fin des années 90, à la demande de Café des Colombia, qui, justement, voulait un outil similaire au Nez du Vin pour pouvoir permettre d'échanger et de travailler les mots du goût aussi, et les mots de l'odorat. Ici, donc, effectivement, sur l'éducation, comment fonctionne l'éducation à la dégustation ? Eh bien, c'est un petit peu comme quand vous apprenez la musique. Quand vous écoutez un opéra pour la première fois, vous entendez la symphonie, vous entendez la musique dans sa globalité. Et plus vous étudiez la musique, plus vous êtes capable de discerner les différents instruments qui le composent. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne justement l'éducation olfactive. C'est qu'au début, le cerveau va percevoir une grande image, et c'est votre capacité à faire un lien entre les différents éléments aromatiques qui composent ce bouquet, que vous allez pouvoir les individualiser, les reconnaître individuellement. Ce qui est fantastique, c'est que dans l'outil que mon père a créé, c'est que le gros avantage, vous avez des arômes qui sont aveugles. Vous n'avez pas l'essence du poivre ou l'essence de la vanille sous les yeux. Vous avez juste son odeur. Donc vous n'êtes pas influencé par la vue. Néanmoins, c'est un exercice que vous pouvez faire en permanence, en allant au marché, en cuisinant, en allant... Tout est possible individuellement.
Ce sont des exercices et on affine au fur et à mesure sa bibliothèque de goût, son répertoire de goût. Alors, on va faire un petit test, on va s'amuser à un jeu. Je vous ai apporté quelque chose. Donc je vais le poser sur une feuille, je vais proposer de goûter ce que j'ai apporté. Vous allez me dire. Donc je précise... Pour ceux qui nous écoutent, que c'est une forme pyramidale, noire. Donc je vous propose de goûter.
Je dirais du nori.
Alors nori, donc, on a une histoire d'algues qui rentre en ligne de compte. Donc observation déjà, comment est-ce que vous décririez ce que je viens de vous passer?
Effectivement, c'est très rigolo, il y a un côté minéral. Mais pas d'odeur.
Pas d'odeur.
Il y a un côté minéral... Marque un tout petit peu les doigts, ça fait presque penser à un petit morceau de charbon, comme ça, qui serait très fin. C'est cassant, c'est craquant. Hein? J'en ai cassé un petit morceau.
Je propose de goûter.
Salé.
C'est salé, c'est un sel.
Fantastique.
Probablement un sel...
Noir de l'Himalaya.
Un sel noir, oui. Un sel noir, en tout cas.
Égyptien.
Pas du tout l'Himalaya.
En forme, donc, de pyramide.
De petite pyramide.
Voilà. Merci, vous êtes prêté au jeu.
Merci, Clémence.
Il y a un autre jeu auquel on va se prêter aussi, c'est la graine de coriandre.
Exactement.
Racontez-moi la graine de coriandre. Alors, la graine plante, déjà on dit que c'est une plante.
C'est une plante. Alors là, on va parler de la graine, pas de la feuille fraîche. C'est une graine qui est très intéressante parce qu'on peut faire un petit exercice avec pour découvrir justement le lien entre le goût, les odeurs et cette fameuse rétro-olfaction qui a été évoquée par Viva tout à l'heure. Si on prend une graine de coriandre et qu'on la place sur sa langue, sans la croquer, on va rien sentir de particulier.
On se pince le nez, on croque la graine de coriandre,
on relâche le nez, et là, c'est une explosion. C'est une explosion de fraîcheur, c'est une explosion de saveur, c'est tout un univers qui s'ouvre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en pinçant le nez, les récepteurs d'odeur sont placés à l'arrière du nez, donc on a bloqué l'air, on a croqué dans la graine. Au moment où on croque, on sent toujours rien, on a des petits morceaux de graines dans la bouche, c'est toujours sec, et au moment où on relâche le nez, l'air part à l'arrière de la bouche, à l'arrière de la gorge, et va revenir dans le nez, et c'est là qu'on va découvrir toute cette explosion. Et ça, c'est un exercice qui est très intéressant, parce que ça permet vraiment de rentrer dans l'univers de la dégustation et de comprendre ce qui se passe.
Cette coriandre est doublement intéressante, parce que tout le monde l'apprécie pas.
Oh non.
Alors pourquoi ?
La coriandre, c'est très clivant. Il y a des gens qui aiment beaucoup la coriandre. J'adore personnellement la coriandre. Je me suis livré un petit test dans mon équipe. Nous sommes 8. Nous avons 2 personnes qui détestent la coriandre. Et pour qui la coriandre a un goût de savon, voire de punaise écrasée. Et quand on regarde un petit peu la littérature, les articles sur le sujet, alors on parle de 15% de la population qui n'aimerait pas la coriandre, là où la coriandre est adorée, puisqu'elle est... symbole de fraîcheur, on la retrouve dans beaucoup de cuisines, on la retrouve en Afrique du Nord, on la retrouve en Asie, on la retrouve un petit peu partout, elle fait des alliances magnifiques avec les carottes. Mais il y a des gens pour qui ça sent le savon et on ne croque pas.
Alliance, on a l'habitude de bien aimer certains mets avec certaines boissons. On va comme ça marier plusieurs goûts. Viva, est-ce qu'il y a des alliances entre certains vins et certains fromages, ou plutôt des idées préconçues sur des alliances dont on pense qu'elles sont forcément très bonnes, et en fait, c'est pas forcément une évidence?
Alors, il me semble que l'alliance la plus préconçue et la moins juste serait celle du camembert avec un vin rouge très tannique. Bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à sortir pour... d'une certaine manière, accompagner la force et la vigueur de certains fromages. On se dit, il faut une boisson, il faut un vin qui puisse avoir suffisamment de muscles en face pour pouvoir supporter la vigueur de certains fromages. Sauf qu'en fait, du coup, c'est un peu un combat de coq et tout le monde sort perdant. Et en l'occurrence, ce qui va ressortir, c'est vraiment le côté métallique et du vin et du fromage. Souvent, moi ce que je propose, plutôt que d'imposer ou de dire quoi que ce soit, c'est de dire essayez de garder un petit peu du vin blanc que vous avez servi en entrée. Parfois même, ça marche très bien avec des liquoreux. de le garder avec, avec le fromage, justement.
C'est toute une éducation au goût, à ces saveurs-là. C'était la question que je voulais vous poser, Antoine Violette. Dans les établissements où l'on apprend à cuisiner, apprend-on à goûter ?
Non.
Ah, décidément.
Il y a des cours de dégustation dans l'univers des liquides, qui a été décrit par Viva.
Donc café, vin, huile d'olive.
On va en école, les gens qui vont se spécialiser dans la dimension de service et en particulier dans la dimension donc des liquides, donc des vins, des jus, des cocktails, du café, du chocolat, du thé, vont avoir des cours de dégustation.
Côté solide, goûter un beurre.
Eh bien non, en école hôtelière, en école de cuisine, on n'apprend pas la dégustation.
On apprend à transformer. À donner un goût.
On va rechercher un objectif visuel. Par exemple, si je fais dorer un filet de poulet, je veux que mon filet de poulet ait l'air doré. Si je fais du pain, je vais chercher une croûte qui va avoir une couleur. Je vais chercher une texture. Si je fais un gâteau, si je fais un flan, je veux que mon flan, il ait une texture crémeuse, mais qui soit un petit peu résistante. Mais on n'apprend pas à déguster.
Il y a uniquement en concours.
Alors les concours, c'est encore une autre affaire, parce que c'est un petit peu comme la grille de dégustation du café. Il y a des grilles de notation dans les concours. Et on va demander au jury, dans un concours, il y a deux grands types de jury. Il y a ce qu'on appelle le jury de travail, les gens qui vont observer les gens qui travaillent pour savoir si le geste est bon, et puis s'ils respectent les règles du jeu. Et il y a le jury de dégustation, qui est celui auquel on pense spontanément. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand je goûte, c'est très très subjectif. Je vais goûter avec mes mots, qui vont pas être forcément ceux de ma voisine, ou ceux de vous, Clémence. Donc autant quand il y a un exercice de dégustation professionnelle, on a parlé du café, on a parlé des vins, on peut parler du chocolat aussi, ça existe, donc de certaines matières premières, ont des gens qui vont faire des référentiels. C'est-à-dire, c'est des marqueurs, on va trouver les marqueurs. Donc ça, c'est organisé. Mais quand je goûte un plat, je vais convoquer mes souvenirs à moi.
Et là, je vais dire, oh, c'est bon, on est dans le subjectif total.
On est bien d'accord. On est bien d'accord, puisque finalement, quand on parle de goût, c'est une bibliothèque et on la constitue tout au long de sa vie. Pour décrire un goût, je vais convoquer mes mots. Et mes mots, ils viennent de ma bibliothèque à moi. Et ma bibliothèque à moi, la bibliothèque de Viva, votre bibliothèque Clémence, vous avez commencé à vous la constituer quand vous étiez petite, en goûtant à la maison avec vos parents, avec vos grands-parents. Et puis ça continue tout au long de la vie. Mais c'est ce qui fait que c'est une bibliothèque personnelle et très intime.
Une bibliothèque de goût.
Et vous parliez de bibliothèque de goût qui évolue tout au long de la vie, on dit souvent que l'amertume, la mer, c'est le goût de l'âge adulte. Les enfants n'aiment pas trop la mer. Le café, c'est quelque chose dont on va se rapprocher à l'âge adulte.
D'un point de vue purement physiologique aussi, un enfant a des seuils de perception de l'amertume qui sont encore plus bas que celui de l'adulte. Parce que le marqueur général de l'amertume aussi, c'était souvent le danger. Et de la même manière, à l'inverse, le sucré, l'enfant a des seuils de perception beaucoup plus élevés que l'adulte.
Donc c'est pas un mythe. L'enfant, c'est plus douce que l'âge adulte.
Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Viva, merci Antoine,
merci
pour ce
Clémence.
Voyage savant et savoureux. Sur la page du Goût du Monde, vous trouvez les liens pour découvrir les éditions Jean Lenoir, les livres et les coffrets pour connaître, s'entraîner aussi à découvrir plusieurs arômes, plusieurs odeurs de café, de vin, de whisky également. Antoine, les éditions BPI, les incontournables ouvrages de référence. Quel est le goût qui vous emballe? Racontez-nous, celui qui crée la polémique ou bien celui qui réconcilie tout le monde autour de la table chez vous. Racontez-nous en vidéo, en message audio sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de cette émission, à écouter en direct, en podcast avec Pio Radio ou votre application préférée. Un clin d'œil à Rissa, Issa, Albert, Kalilou ou Boubacar. Un grand merci de votre fidélité à tous. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous.